Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1, je prends la suite des tiennes. Hein. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors le titre de ce message, c'est tout simplement « Comment vit un chrétien ?» Il vit, comme ce texte vient nous le dire, il vit comme un enfant de Dieu. C'est aussi simple que cela, un chrétien vit comme un enfant de Dieu, car c'est ce qu'il est. L'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il vit à partir d'une révélation, une révélation suprême qui l'a rejoint, qui l'a changé et qui le change encore. Parce qu'il n'est plus question pour lui d'être autre chose que ce que son père a fait de lui, un de ses enfants. Si nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous vivons comme un enfant de Dieu. Avec tout ce que cela comporte, lorsque nous vivons dans une famille avec un père et une mère, nous vivons selon la loi, les principes, la façon d'être, tout ce qui est de la famille, ben nous le vivons tout naturellement. Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus chrétiens, eh bien, nous vivons comme un enfant de Dieu. Eh bien, c'est la question d'ailleurs que je vous pose, est-ce que vous vivez comme des enfants de Dieu? Non pas avec un titre d'enfant de Dieu, mais avec la qualification d'enfant de Dieu, à la manière d'un enfant de Dieu. J'ai envie de vous dire... Faites-vous certifier, faites-vous qualifier par le Seigneur comme un de ses enfants. Faites-vous qualifier par Dieu et non pas par des hommes. Si un homme vous dit « toi tu es chrétien », bon, par réputation peut-être il peut vous dire cela. Mais si Dieu vous dit « toi », tu es mon enfant, alors à ce moment-là, ça change. Parce que vous allez vous comporter tel que Dieu vous a dit que vous êtes un de ses enfants. La parole de Dieu nous dit que nous avons été scellés d'un sceau et que nous avons reçu les arts de l'Esprit. Il y a deux passages qui nous l'affirment. La deuxième aux Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, c'est-à-dire les premiers versements de l'Esprit. Et dans l'Épître aux Éphésiens également, chapitre 1, versets 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc cette opération, être scellé, d'un sceau, recevoir les arts de l'Esprit. Cette opération est une opération divine. Et elle n'intervient que lorsque vous avez répondu par la foi à l'appel de Dieu. Je reprends le 2 Corinthiens chapitre 1. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. À partir du moment où Dieu vous a choisi, ou un, et maintenant qu'il vous a fermé en Christ, eh bien, vous ne revendiquez pas seulement un titre au milieu des enfants de Dieu, vous êtes avec eux, auprès d'eux, tel que vous êtes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, oint scellé par le Saint-Esprit de Dieu, ce qui est la caractéristique de Jésus lui-même. Il a été oint de l'Esprit, c'est ça le sens de son nom, Christ, celui qui est oint, choisi et oint. Et ce qui est de Christ, la manière dont Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, eh bien, elle se manifeste en vous, à partir du moment où vous croyez en lui. Alors maintenant, il y a un corollaire à ce nouvel état, à cet état d'enfant de Dieu. Eh bien, c'est que le monde ne vous connaît pas. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne vous connaît pas. Et l'apôtre Jean, dans son épître, nous entretient régulièrement au sujet du monde, et il ne nous dit pas seulement que le monde ne nous connaît pas, il nous dit aussi au verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Non seulement le monde ne vous connaît pas, mais il vous hait. Il a de la haine pour vous. Le monde, qu'est-ce que le monde? C'est un complexe, une entité qui se développe en dehors de Dieu. C'est l'organisation humaine qui tente à se suffire à elle-même, qui ne reconnaît pas son Créateur. Le monde est marqué par la convoitise et l'orgueil, nous dit Jean dans la même épître au chapitre 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais il précise tout de suite que par-dessus tout, par-dessus cela, le monde est marqué par la vanité, puisque le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi qu'il a introduit ce paragraphe par « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Le monde jouit aussi des biens matériels que Dieu lui prodigue, mais il ne les met pas à son service. Comme il est dit, chapitre 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Oui, le monde possède toutes sortes de biens qui lui sont accordés par la grâce de Dieu, mais il n'en rend pas grâce à Dieu et il ne les met pas au service de Dieu. Le monde est marqué par un esprit qui veut le subjuguer et qui s'oppose à Christ, au chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, il y a dans le monde l'esprit de l'antéchrist qui a ses prophètes. Bien-aimés, au chapitre 4, toujours verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et donc tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus est celui de l'Antéchrist. Bien entendu, nous n'avons pas à craindre l'influence des faux prophètes si nous sommes dans la foi véritable en Jésus-Christ. Au verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. » Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les premiers à avoir été de Dieu et à avoir enseigné la vérité de Dieu sont tout simplement les apôtres du Seigneur Jésus. Et il s'agissait de les écouter eux et non pas les faux prophètes ou faux apôtres qui étaient dans le monde et qui y sont toujours. Alors, bien sûr, l'esprit qui agit dans ce monde, c'est celui du malin, qui l'a sous sa domination. Chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que, bien sûr, originellement, l'homme a été séduit par ce malin et il est tombé sous sa domination. Le monde, si nous allons donc dans l'évangile maintenant, au début de l'évangile selon Jean, eh bien nous voyons que le monde ne connaît pas la lumière qu'il l'a créée, chapitre 1, verset 10, hein, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, c'est-à-dire la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et même ceux qui ont été mis à part dans le monde pour pouvoir la recevoir ne l'ont pas reçue, puisqu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, par une opération et une volonté particulière, Dieu a trouvé au sein de ce monde, qui pourtant ne l'a pas reçu, ne l'a pas reconnu, Dieu a trouvé ceux dont il a pu faire ses enfants. Au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà cette action profonde, ce choix fondamental que Dieu a fait, et qui a produit comme résultat que dans ce monde qui ne le connaît pas, et qui le rejette, eh bien Dieu a quand même pu faire naître de ses enfants. Il a maintenant dans ce monde ceux qui lui appartiennent et qui sont appelés ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais tout cela est possible parce que Jésus-Christ est venu en chair. Comme j'ai lu donc au chapitre 4, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. L'opération qui consiste à faire de nous des enfants de Dieu n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu l'apparition du Fils unique de Dieu. Ce qui nous fait enfants de Dieu, c'est notre foi au Fils unique de Dieu. Or, que signifie confesser le Fils de Dieu venu en chair? C'est tout simplement reconnaître l'impossible, c'est-à-dire que Dieu était en Jésus. En l'homme Jésus, il y avait Dieu, tout ce qui est de Dieu, la plénitude, la sagesse, la puissance, la bonté, la gloire, était dans cet homme Jésus, né à Bethléem, étant connu de son temps comme ayant vécu à Nazareth, en Galilée, Jésus de Nazareth. Il n'est pas seulement apparu, créé, comme le sont tous les hommes, non, il est venu. Plus précisément, il a été envoyé depuis le sein du Père. Jean 8, verset 42, nous lisons « Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Et il est descendu du ciel, envoyé par le Père. Comme il est dit dans la même épître, chapitre 4, donc première épître de Jean, chapitre 4, versets 14 à 16. « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc nous avons vu, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus donc est le Christ, appelé-t-elle dès sa naissance. Car il vous, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, c'est l'homme qui reçoit toute la dignité, les qualificatifs et le pouvoir divin pour siéger dans les cieux, comme il est dit au psaume 2. Hein ? C'est moi qui oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voilà le Christ. Personne ne peut connaître Dieu et par conséquent ne devenir son enfant s'il ne porte d'abord son cœur vers le Fils de Dieu, manifesté en chair. Votre christianisme n'aurait aucune réalité sans votre Christ. Notre Seigneur et ses apôtres nous ont enseigné que le Christ n'est pas seulement un homme qui a reçu l'Esprit à un moment donné, ce que certains voudraient enseigner, pour être élevé au rang de Seigneur et de Dieu souverain. Hein, Jésus est clairement présenté comme préexistant à son existence terrestre. Les passages sont multiples, mais je vous cite seulement cette parole de Jésus en conclusion de son, on peut dire, sa confrontation avec les pharisiens. Avant qu'Abraham fût, je suis. La naissance de l'homme Jésus, c'était l'abaissement de celui qui existait en forme de Dieu, dans l'égalité avec Dieu, comme le dit l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Et puis l'évangile que nous venons de lire, l'évangile de Jean, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc, le Christ, c'est celui qui, existant en forme de Dieu, s'est rendu accessible par l'amour de Dieu. Il a opéré pour nous la réconciliation et il opère en nous l'adoption grâce à l'œuvre de la croix. Toujours dans 1 Jean 4, versets 9 et 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde » afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà vraiment le message de l'Évangile. À partir de ce moment-là, c'est l'Esprit du Fils de Dieu, reconnu comme tel et confessé, qui fait de nous des enfants de Dieu. Et se crée dans nos cœurs une attente nouvelle, que nous trouvons au verset 2 et 3 du chapitre 3, donc que nous avons commencé par lire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La prochaine étape, ce sera de voir le Fils tel qu'il est, dans la gloire. Et l'opération qui est associée, c'est d'être rendu semblable à lui. C'est notre espérance, être rendu semblable à lui, glorifié. Mais en réalité, c'est déjà notre condition actuelle. Nous lui sommes déjà semblables, selon ce qu'il est dit au chapitre 4, verset 14. Le 17, pardon. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Déjà aujourd'hui, nous sommes transformés pour être comme Jésus dans ce monde, pour être à part de ce monde, pour être loin de l'Esprit de Dieu. Et on peut dire que nous attendons son apparition pour que nous apparaissions avec lui dans la gloire, selon ce que nous sommes déjà en lui. Nous sommes déjà avec lui et en lui au sein de ce monde. Et donc, dans ce monde, nous vivons dans la foi au Fils de Dieu et en témoignage à ce qu'il est. Nous rendons témoignage de ce qu'il est. Et le Seigneur, étant près de quitter le monde, a fait cette prière à son Père. Il a prié pour que nous soyons préservés du mal. Et en conséquence, Dieu nous a accordé et vous a accordé de pouvoir vous garder vous-même pour lui, de sorte que le malin ne vous touche pas. Puisque juste après... Non, juste avant qu'il ait dit que le monde entier est sous la puissance du malin, au verset 18 du chapitre 5, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà ce qui est dans nos vies par la foi au Fils de Dieu. Nous sommes appelés à nous garder nous-mêmes et nous le faisons si nous sommes engendrés par le Saint-Esprit. Nous nous gardons et le malin ne nous touche pas. Le malin ne peut avoir de prise sur nous que parce que nous lui laissons avoir comme prise. Il ne peut prendre que ce que nous lui donnons. Il ne peut entrer que là où nous lui ouvrons. Mais si nous nous gardons, il ne peut pas. Il n'a pas autorité sur la vie des enfants de Dieu. Le malin ne touche pas à celui qui est en Christ et qui vit comme un enfant de Dieu au sein de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu, le monde ne nous connaît pas, nous connaissons Jésus-Christ venu en chair, et c'est bien là ce qui fait la différence. Ce qui fait de nous des êtres nouveaux, qui ont la victoire sur le péché, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout est là, tout découle de là, de croire au Fils de Dieu. Crois-tu au Fils de Dieu ? Si nous croyons au Fils de Dieu, nous recevons tout le bénéfice de son sacrifice à la croix pour le pardon, l'expiation du péché, et nous vivons la vie nouvelle par son esprit qui nous est accordé, par sa grâce. Et une fois que le Seigneur nous a accordé sa grâce, il nous la conserve. Pour me poser cette question cette semaine, hein, le Seigneur efface toutes nos fautes passées lorsque nous convertissons, lorsque nous venons à lui et que nous lui demandons pardon pour nos fautes et que nous sommes donc ainsi purifiés de tous nos péchés passés. Mais devenus enfants de Dieu, que se passe-t-il si nous péchons à nouveau? Eh bien, la réponse, je vous l'ai donnée en partie, puisque déjà, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, non, il ne pêche pas de façon volontaire et persistante, il est gardé de cela, mais par contre, il commet des fautes, il a des chutes, c'est évident, c'est reconnu dans la parole. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsqu'il pêche? Eh bien, c'est tout simplement la même grâce par laquelle il a été appelé à venir à Dieu, qui est disponible et qui continue de faire l'œuvre de réparation et de sanctification. La grâce de Dieu nous accompagne toute notre vie. Nous pouvons en tout temps nous confier en Dieu et il saura donc nous garder du mal, il saura nous reprendre lorsque nous péchons et que peut-être nous persistons un peu trop dans le péché, hein, comme un père sait corriger son enfant, il est écrit, hein, que le père aussi nous châtie pour notre bien, pour nous amener à la repentance, et il saura le faire si c'est nécessaire. Mais justement, parce que nous sommes ses enfants et qu'il s'occupe de ses enfants, pour pouvoir les amener à lui et les avoir avec lui pour l'éternité. Il y a vraiment un changement qui a été opéré pour nous lorsque nous sommes entrés dans la foi en Jésus-Christ pour devenir les enfants de Dieu. Et cela ne peut pas être remis en cause. Et ça ne serait pas le cas seulement si nous avions, on peut dire, pris le titre de chrétien comme cela, simplement par imitation, par tradition, par coutume. Et dans ce cas, nous aurions voilà, que le titre et pas la réalité. Mais si nous avons de notre cœur sincèrement accepté et reconnu le Seigneur Jésus, que nous vivons en communion avec lui, alors nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et ça fait toute la différence avec celui qui ne le connaît pas et qui vit encore dans ce monde sous la domination de l'esprit du monde qui le conduit à sa perdition. Nous sommes dans la grâce pour être sauvés pour la vie éternelle. Amen.